Et donc, qu'est-ce qu'il disait, Maulana? Il disait, le problème, c'est que vous voulez toujours recevoir, recevoir, recevoir de vos femmes. Mais vous, vous ne voulez pas donner. Vous ne pouvez pas participer un petit peu dans les tâches ménagères? Vous ne pouvez pas un petit peu ramasser votre assiette sur la table et puis laver? Non, ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas donner. C'est ce qu'il disait, Maulana. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ici, nous sommes face à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que franchement, mettons notre main sur le cœur, est-ce que nous méritons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ceci, cela, etc. Même quand nous n'avons pas demandé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tellement de bienfaits, tellement de bienfaits. C'est vrai ou pas? Et des fois, nous disons à Allah, non, nous te désobéissons, nous commettons des péchés, mais nous voulons que toi, tu réponds à notre appel. Nous voulons que toi, tu réponds à notre invocation. Est-ce que ça paraît logique que nous, on désobéit? Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et moi y compris, nous savons qu'il y a une petite chose qu'on devrait améliorer. Il y a un guna que je fais. Je sais que ce guna-là, je ne devrais pas le faire. Je me dis, il faut absolument que je supprime ça. Mais pourtant, je me dis toujours, non, je ne suis pas encore prête, non, ce n'est pas encore le moment, etc. Je ne suis pas prête. Alors quand je demande à Allah, je dis, Allah, je te demande, pourquoi est-ce que tu n'exauces pas mon vœu? Allah subhanahu wa ta'ala doit me dire, oui, toi aussi je te demande une petite chose, un petit sacrifice, mais toi aussi tu n'es pas prête à me donner ceci. Et pourtant, malgré nos désobéissances, Allah subhanahu wa ta'ala répond toujours à notre appel, répond toujours à nos invocations. Il nous a donné tellement de choses. Vous savez que les personnes qui sont allées pour le Hajj, vous savez que quand on est à Arafat, le jour du Hajj, quand nous sommes à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même que celui qui désespère, celui qui pense que je ne vais pas le pardonner en ce jour, il fait partie des criminels. Il fait partie des criminels. Ça veut dire que malgré tous les péchés qu'on a faits, on ne peut pas penser même pas une seconde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Combien Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il attend simplement que nous revenions vers lui. Il dit, vous vous êtes perdus. Eh bien, revenez vers ce chemin. Revenez vers moi. Et puis, une dernière raison pour laquelle nos vœux ne sont pas exaucés, c'est aussi parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup lorsque nous sommes en train de l'invoquer. Lorsque nous le supplions, lorsque nous nous levons dans la nuit, nous faisons le namaz échec, ou même dans la journée, quand nous parlons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime beaucoup ça, que nous lui parlons, que nous lui demandions. Alors parfois, il a tellement envie, parce que s'il nous donne, c'est vrai, nous, comment on est? Quand il nous donne, imaginez que je vous ai dit, est-ce que tu peux me prêter ça? Vous m'avez donné, après c'est fini, est-ce que je vais revenir vers vous? Peut-être pas, parce que j'ai eu la satisfaction, j'ai eu ce que je vous demandais, vous m'avez donné. Alors que si vous n'allez pas me donner, qu'est-ce qui va se passer? Demain, je vais revenir. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'affaire que je t'ai demandé? C'est vrai ou pas? Demain, après-demain, je vais revenir. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ceci? Je vais revenir. Allah subhanahu wa ta'ala adore, il aime beaucoup que sa créature vienne vers lui. Et alors, parfois, c'est une des raisons pour lesquelles nos voeux ne sont pas exaucés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, encore, j'aime beaucoup. Vous savez que quand nous tous, d'ailleurs dans le Doua et Koumel, il y a plusieurs fois où nous faisons Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. C'est vrai ou pas? Ô mon Créateur, ô mon Seigneur. Parce que lorsque un mu'min, lorsqu'un croyant dit Ô Allah, lorsqu'il appelle Allah, alors, Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges. Il dit, oh mes anges, allez voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette créature, qu'est-ce que le problème cette créature. Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup qu'on l'invoque. Il aime beaucoup ce moment-là. C'est pour cela, c'est une des raisons pour lesquelles parfois nos voeux ne sont pas exaucés. Et lorsque nous regardons les invocations que nous avons, dans le que ce soit le Seyfé, c'est Djadia de notre quatrième imam, que ce soit les autres invocations que nos imams al-Islam, que les Ahlbayt al-Islam nous ont données, nous ont confiées. Lorsque nous regardons ces invocations-là, elles ont une certaine puissance. Elles recèlent de bonnes choses, de bonheur, de tranquillité, etc. Et c'est vraiment la seule école islamique qui a des invocations qui ont autant de de puissance, de pouvoir, etc. Regardez les autres invocations des autres écoles islamiques que vous avez. Vous verrez que les autres douas qui sont rapportées des ashabs, des compagnons du prophète, sont creux. Ils ne sont pas aussi profonds que nos douas à nous. Nos douas sont regorgent de bienfaits, regorgent de bonnes choses. Vraiment, vraiment, ça nous touche du fond de nous-mêmes. Et certaines d'entre vous m'ont même témoigné, je me souviens encore que une d'entre vous m'avait dit un jour quand cette personne avait participé au Doua Ekomel dans le Temad et avait lu les paroles, qu'est-ce que ça voulait dire? Elle avait les larmes aux yeux, elle a dit vraiment, vraiment, j'ai été très émue, très touchée, parce que le Doua Ekomel est très profond. Ça nous parle du plus profond de nous-mêmes. Alors nous allons maintenant parler d'un certain nombre de douas qui sont des douas qui sont conseillés pour les désespérés. Parce que nous, on est en train d'étudier, d'analyser notre verset où on nous dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra répondre à l'appel du désespéré, de celui qui est dans l'angoisse de l'angoisse. Et quels sont les douas qui sont connus comme les douas du désespéré? Vous avez d'abord le doua Arafat, Imam Hussein alayhi salam. Vous savez que ce doua-là, eh bien, il est rapporté par Bishr et Bashir Asadi, les fils de Ghalib et Asadi. Il est rapporté que le jour de Arafat, notre troisième imam, Imam Hussein al-Islam, il avait l'habitude de faire les 100 pas. Il était dans un état d'angoisse, il récitait le doua Arafat. Il était tel un mendiant, tel un moustache, justement. Et ce doua Arafat, il est très très puissant. Si vous êtes endetté, lisez ce doua. Vos dettes vont être, vous allez pouvoir payer vos dettes. Vos dettes vont être payées. Ce doua Arafat-là, pour les personnes qui veulent que leur enfant se marie, leurs fils ou leurs filles sont maintenant grandes, sont des jeunes filles, des jeunes hommes. Vous avez envie que vos enfants se marient, ce doua est très puissant. Et ce doua n'est pas simplement à réciter le jour de Arafat. On peut le réciter tout. Le deuxième doua, c'est le doua Moudjir. Le doua Moudjir, si vous le récitez 3 fois dans un mois, vous verrez que tous vos péchés seront pardonnés. Tous vos péchés seront supprimés, même si vos péchés sont aussi nombreux que les gouttes d'eau qui tombent du ciel, que la pluie. Même si vos péchés sont aussi nombreux que les grains de sable qui sont dans le désert. Est-ce que vous arrivez à compter les grains de sable dans le désert? Même si vos péchés sont aussi nombreux que ça, nous disent nos imams. Même si vos péchés sont aussi nombreux que les feuilles qui tombent des arbres, Douaé Moudjir est un doigt très puissant. Pour les sœurs qui viennent d'arriver, vous avez ensuite les polycopiés, donc vous ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça là-dessus. Ensuite, un des doigts qui est très puissant aussi, c'est le Jawshané Kabir. Le Jawshané Kabir que nous récitons les 3 nuits de Laylatul Qadr, le 19, le 21 et le 23. Comment est-ce que le Jawshané Kabir est venu? Un jour, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une guerre. Et puis, il avait une armure qui était très lourde, qui était très difficile à porter. Et il était très mal à l'aise. Il était dans un état d'angoisse, il était désespéré. Il était mal à l'aise avec cette armure qu'il n'arrivait pas à gérer. Il n'arrivait plus à se mouvoir, il n'arrivait plus à bouger. Il n'était pas libre dans ses mouvements. Il était très, très, très mal à l'aise avec cette armure. À ce moment-là, Jibril alayhi salam est venu avec le Jawshané Kabir. Et a dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de réciter cette invocation-là qui sera une invocation très puissante que vous laisserez en héritage à votre umma, à votre communauté. Et quand vous réciterez ce Jawshané Kabir, vous n'aurez plus besoin de votre armure. C'est le Jawshané Kabir qui vous protégera. Vous avez déjà vu un doigt qui peut servir d'armure? Eh bien ce doigt-là est tellement puissant que Rasulallah a enlevé son armure et en récitant le Jawshané Kabir, il a été protégé. C'est un doigt qui est très très puissant. Il est long, mais il est puissant. Pour les malades, pour les paralysés, pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Et, alhamdoulilah, si vous avez la santé, c'est quelque chose, c'est le plus grand bienfait que nous pourrions avoir. C'est vrai ou pas? Quand une seule fois on tombe malade, qu'il nous arrive quelque chose, comment on est? Comment on se sent complètement démuni? La santé, le sehat, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est le plus grand bienfait que la subhanahu wa ta'ala nous y accorde. Pour les malades, le doua Moshnou. Et vous savez, le doua Moshnou, c'est quoi son histoire? C'est l'histoire d'un jeune homme qui a désobéi à son père. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, il raconte, c'est le jeune homme qui raconte. Il dit, j'étais quelqu'un qui ne respectait pas, qui n'obéissait pas du tout mon père. Et pour ceux qui ont perdu leur père, Le doigt émotionnel vous permet de voir qu'est-ce que vous allez rater par rapport à votre père. Comment est-ce que vous devez respecter vos parents? C'est quelque chose qu'on apprend du doigt émotionnel. Le jeune homme raconte, il dit, j'avais l'habitude de ne pas être religieux, je n'étais pas pieux, je n'écoutais pas, j'étais désobéissant envers mon père. Mon père n'arrêtait pas de me répéter, deviens religieux, sois pieux, sois religieux, mais je n'ai pas. Il dit, un jour, je voulais voler de l'argent dans le tiroir. Et pendant que j'étais en train de voler l'argent dans le tiroir, mon père m'a vu. J'étais venue en douce récupérer l'argent du tiroir, mais malheureusement, mon père m'a vu. Et quand mon père m'a vu, à ce moment-là, il m'a dit, arrête, combien de fois je t'ai dit d'arrêter, arrête cet acte tout de suite. Et quand nous nous sommes disputés, j'ai poussé mon père. Et lorsque mon père est tombé, lorsque je l'ai poussé, il y a un cri qui est sorti de la bouche de mon père. Mon père a dit, je prierai Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te punisse pour ce que tu m'as fait. Vous savez, quand on dit ça, un bon doigt, il ne faut jamais faire de bon doigt. Il ne faut jamais faire un doigt où Allah fait le mal pour un tel. Jamais, jamais, jamais. Hein, le bon doigt. Mais quand, vous savez, des fois, c'est le cœur des parents. Quand un bon doigt sort de la bouche des parents, faites en sorte que jamais un bon doigt ne sorte de la bouche de vos parents. Quand un bon doigt sort de la bouche des parents, c'est la plus mauvaise chose qui puisse vous arriver. Ce père-là était désespéré parce qu'il disait à son fils, mais son fils ne l'écoutait pas. Et il était tellement désespéré quand son fils l'a poussé, que ce cri-là, il n'a pas réfléchi et ce cri-là est sorti de sa bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son invocation. Et le jeune homme est devenu paralysé. Le jeune homme a regretté son acte, il est allé voir son père, pardonne-moi papa, pardonne-moi. Et puis un jour son père s'est rendu compte et il a dit, si tu m'accompagnes pour le Hajj, je vais te pardonner. Alors le fils était très content, il se dit, voilà une occasion pour moi de me faire pardonner. Père et fils font les préparatifs pour aller au Hajj. Durant le trajet, qu'est-ce qui se passe? Le père décède. Et quand le père décède, ils ne sont pas encore arrivés pour le Hajj, ils ne sont pas encore arrivés à Mecca. Le fils est désespéré parce que c'était son seul espoir. Il est handicapé, il ne sait plus quoi faire. Quand il arrive à Mecca, il arrive au Hajj, il est en train de supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, aide-moi, qui va m'aider maintenant? Il n'y a plus personne pour m'aider, je n'ai même plus mon père. Et il est dans cet état-là qu'il rencontre Imam Hussein alayhi salam qui vient vers lui. Imam Hussein lui dit, tu es désespéré, qu'est-ce que tu as comme problème, tu es angoissé, quel est ton problème? Et il lui raconte toute l'histoire. Imam Hussein a.s. lui dit, je vais aller voir Amirul Mu'minin, mon père Imam Ali a.s. Et je vais lui dire de trouver une solution pour toi. Quand Imam Hussein va voir Imam Ali a.s., Imam Ali a.s. lui confie le doigt et Mashmoul. Lui dit, dis à cette personne de réciter le doigt et Mashmoul et toutes ses difficultés, toute son angoisse, tous ses problèmes vont disparaître. Le jeune homme raconte que ce soir-là, j'ai lu le doigt et Mashmoul, et puis je me suis endormie. Et dans mon rêve, j'ai vu le prophète de l'islam, il m'a dit, marche, lève-toi. Je lui ai dit, mais je suis handicapée, je ne peux pas me lever. Et à ce moment-là, Rasoulallah lui dit, mais c'est ton prophète qui te dit de te lever. Et le jeune homme raconte, je me suis levée, et depuis, j'ai vu que ma paralysie avait disparu. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Alors, lorsque nous récitons le verset Amma Yujibu, nous nous arrêtons, nous disons simplement, qui est celui qui pourra nous aider, nous secourir, l'angoissé, etc., le désespéré, et qui supprime tout le mal. Mais le verset continue dans la réalité. Le verset continue dans ces termes-là. Et il fera de vous son calife sur la terre, génération après génération. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Ça, c'est la suite du verset. Et dans la réalité, notre sixième imam al-Islam nous informe que non seulement ce verset a été révélé en réponse aux idolâtres qui avaient l'habitude de faire des invocations justement à leurs idoles, mais aussi parce que c'est en honneur à l'imam al-Islam. C'est en honneur à notre imam. Parce que dit la suite du verset? Il dit que nous vous enverrons sur la terre en tant que calife. Calife, ça veut dire successeur du prophète. Et justement, ici, ça parle de la réapparition d'Imam Zaman Alis. Et quand on regarde bien dans ces temps, actuellement, quel est le vrai mustel, quel est le vrai désespéré? c'est Imam Mehdi alayhi salam. C'est Imam Mehdi alayhi salam qui est désespéré. Et c'est pour cela que quand il viendra, il récitera deux, il accomplira deux rakat namaz près du Makam Ibrahim, de la station du prophète Ibrahim à côté de la Sainte Kaaba, et il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il demandera doua à Allah subhanahu wa ta'ala de justement lui enlever ses problèmes, de l'aider dans son désespoir, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la victoire. D'accord ? Donc il va annoncer qu'il est l'imam et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la victoire. Hein? Et donc c'est de ça que ce verset. Alors je voulais vous parler de justement une anecdote qui m'a beaucoup plu et qui peut-être que certains d'entre nous pourraient l'appliquer dans nos vies. Alors, justement, vous savez que moi, je prends ces majalis de Sayyid Ammar. Et Sayyid Ammar est en train de raconter qu'il y a un homme, à Londres, qui vit à Londres, et qu'est-ce qu'il a fait dans ses affaires, dans son business, dans son commerce? Il a associé Imam Zamana à son commerce. C'est-à-dire qu'il l'a pris en tant qu'associé. Ça veut dire que les associés, qu'est-ce qu'ils font dans une entreprise? Chacun apporte une part. Chacun a une part. Chacun apporte une somme d'argent. Donc cela veut dire qu'il a pris de l'argent de Koums ou son Koums à lui, et puis il a considéré que ça, ça fait partie de mon entreprise. Et cet homme-là, croyez-moi, raconte ses hommes, est quelqu'un qui a beaucoup prospéré. Ses affaires, depuis qu'il a pris Imam Zamana comme son partenaire, comme son compagnon, comme son associé dans ses affaires, ses affaires ont beaucoup, beaucoup prospéré. Alors, il dit, je suis allé voir cet homme, ce momine, ce croyant, et je lui ai dit, mais comment ça se fait que ton business fonctionne aussi bien que ça? Pourquoi est-ce que tu as beaucoup de barakat, tu as beaucoup d'argent, ton commerce marche beaucoup? Il dit, vous savez quoi? J'ai mis l'imam en tant qu'associé. Et vous savez quel est l'avantage que j'ai? C'est que, à chaque instant, quand je veux faire quelque chose dans mon business, je réfléchis, attention, est-ce que cet acte-là est halal? Est-ce que c'est pas quelque chose, un arrangement? Ne vous inquiétez pas, on va s'arranger, etc. Est-ce que c'est tout ça, c'est trafiqué, c'est... Non, je réfléchis. C'est l'argent d'imam, c'est imam qui est mon associé. Si c'est de l'argent qui est haram, qui vient dans mon entreprise, ça veut dire, c'est comme si je disais, imam, voilà, votre part, c'est de l'argent haram. Est-ce que je peux? Moi, si je mange quelque chose de haram, ça peut encore aller. Mais je ne peux pas dire à imam, imam, voilà, votre part, et puis c'est de l'argent haram. Donc, il dit, ça me permet d'être honnête, d'être blanc dans mes affaires, d'être net. Quand quelque chose est illégal, quand quelque chose n'est pas possible, je dis au client, excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire ça. Je suis clair et net. Et mon business, depuis que j'ai décidé de faire ça, mon commerce avance beaucoup, beaucoup, progresse énormément. Je me fais énormément, énormément de bénéfices. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment extraordinaire quand même. Et nous parlions du désespéré. Il y a un ulama, il y a un érudit qui raconte qu'il a vu Imam Zamana dans son rêve. Et il a vu que Imam Zamana avait des bleus sous les yeux tellement il avait pleuré. Il dit, j'ai demandé à Imam, mais Imam, pourquoi est-ce que vous pleurez autant? Qu'est-ce qui vous fait autant pleurer? Et Imam répond, est-ce que cette tragédie n'était pas suffisante? Est-ce que la tragédie de Karbala, qui est tellement difficile à supporter pour moi, n'était pas suffisante? Pour que mes croyants, pour que mes partisans, pour que les moumines, ils me font souffrir encore plus en commettant des péchés. Quand ils commettent des péchés, je ne peux pas le supporter. Et ils me font souffrir et me font pleurer de la sorte. Est-ce que réfléchissons, est-ce que nous agissons correctement envers notre imam? Est-ce que nous le faisons souffrir? Et dans le ziyarat et nahiya, vous savez que Imam Zamana alayhi salam avoue que quand il pleure sur la tragédie de Karbala, il a des larmes de sang, ses larmes se transforment en sang. Mes chers Azadaran et Hussein, vous vous souvenez que lorsque Nabi Yaqub alayhi salam avait perdu son fils Yusuf alayhi salam, il avait tellement pleuré qu'il avait perdu la vue. Imam Zamana, lorsqu'il pense à la tragédie de Karbala, il pleure tellement que ses larmes se transforment en sang. Oui, mes chers soeurs, nous sommes aujourd'hui sur le Fajr Azhar. Le fauchet Uzza, vous vous souvenez que lorsque les anges viennent dans le fauchet Uzza, il y a une telle odeur, tellement un parfum qui se dégage d'eux, que les autres anges qui sont restés dans les cieux, ils demandent à ces anges-là qui étaient venus au Majalis Hussein, pourquoi est-ce qu'il y a une très bonne odeur qui se dégage de vous? D'où vous venez? Et les anges répondent, nous venons du Majalis Hussein. Oui, mes chères sœurs, vous savez que l'imam Zamana alayhi salam est venu. Vous savez que dans ces Majalis Hussein, Sayyida Fatima alayhi salam vient. Qu'elle vient avec Janabi Zayyad alayhi salam. Qu'elle amène Janabi Sakina alayhi salam. Et lorsque nous sommes tristes, lorsque nous faisons le Gomé Hussein, lorsque nous faisons le Azadari, Janabi Sakina demande à sa grand-mère, à sa dadi, Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Dadi, qui sont ces personnes? Bibi Fatima alayhi salam répond, ce sont nos partisans, ce sont les partisans de ton père, ce sont les Azadar de ton père, ce sont les Azadaran et Hussein. Et Bibi Zainab alayhi salam, Bibi Sakina, Bibi Fatima, ils prient pour nous, ils prient pour les Azadaran et Hussein.